Je voudrais qu'on puisse lire deux passages en particulier, et ça se trouvera les deux dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, le premier passage, c'est le chapitre 1er et le verset 29. Dans les deux passages, on va voir que c'est un moment où Jésus a saisi la main de quelqu'un. Et il s'est passé quelque chose. Marc, chapitre 1er et le verset 29, la première personne, il s'agit de la belle-mère de Pierre. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Amen. Premier passage, première expérience où nous voyons le Seigneur Jésus saisir la main de quelqu'un. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et on se rend compte qu'il y a une vérité déjà première qui commence d'entrer en sortant de la synagogue. Ça veut dire que déjà, on peut comprendre quelque chose. C'est que oui, le Seigneur est présent quand on est à l'église, quand on est réunis ensemble, même si on n'est pas nombreux. Le Seigneur il est présent, mais il est aussi présent quand on est tout seul au dehors. Quand on sort de l'église et quand tout à l'heure on va sortir, il sera aussi présent et il va pouvoir autant nous bénir au dehors qu'au dedans. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est en sortant de la synagogue, ça parle aussi du moment. C'est pas parce que c'est pas le jour de la réunion que le Seigneur peut pas nous bénir. Des fois, on voit des personnes qui ont une idée un peu mystique des réunions, comme quoi c'est à ce moment-là que Dieu va agir véritablement et que les autres moments de la semaine, eh bien, Dieu est comme s'il était un peu moins puissant. Et on sait par l'expérience, on sait par la parole de Dieu. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc on a cette assurance que le Seigneur est présent. Oui, ça ne dépend pas de l'endroit. Dès l'instant où on a le cœur qui est tourné vers le Seigneur, Dieu il est capable d'agir, de guérir, de toucher. Et Dieu n'agit pas que le dimanche ou que le jeudi soir ou que le jeudi après-midi ou qu'au moment des réunions. Dieu il agit 100% du temps, dès l'instant où quelqu'un crie à lui, dès l'instant où quelqu'un lui fait confiance, met sa foi en lui. Et le problème que Jésus il a trouvé dans cette histoire, c'est qu'il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était couchée, elle avait la fièvre. Et c'est vrai que plus je réfléchis à la fièvre, le mal qui peut nous atteindre quand on est malade, quelqu'un a déjà eu la fièvre. Moi, j'ai déjà eu, et ce n'est pas les meilleurs moments. On a envie de rien faire quand on a la fièvre. C'est simple. On a envie de rester sur le canapé ou dans le lit et de ne pas bouger. Et c'est vrai que spirituellement parlant, des fois, il y a des moments dans notre vie où on a comme la fièvre, où peut-être c'est simplement une pensée qui est là, mais que l'on rumine continuellement, qui nous empêche de dormir. Peut-être c'est une inquiétude. Je sais qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ont des inquiétudes par rapport à des choses normales, la nourriture, des inquiétudes par rapport à l'argent, parce que c'est un peu juste financièrement, mais tellement d'inquiétudes que ça les amène à faire tourbillonner le cerveau et à chauffer à l'intérieur, d'avoir cette fièvre-là. Il y a des personnes qui sont inquiètes par rapport à leur famille qui est au loin et qui n'ont pas de nouvelles. C'est vrai, quand on parle des fois avec les filles de la rue le mardi soir avec M. Galifot, c'est vrai qu'on est interpellé par ces jeunes filles qui ont leurs parents, leur famille qui est au loin et qu'ils n'ont pas trop les moyens de les contacter. Ça fait quelque chose. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est là, qui peut nous empêcher d'être dans la paix, dans la tranquillité. Il y a tellement d'occasions où ça peut tourbillonner dans notre cerveau. On peut être fatigué ou désespéré parce qu'il y a un péché qui est là. Et qu'on combat depuis tant et tant d'années, qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et des fois, on a l'impression que ça y est, on en est délivré. Et puis, pam, on retombe. Et c'est des choses qui sont là, qui nous pèsent et qui font qu'on peut avoir du mal à avancer, qu'on peut être comme paralysé. Cette femme, à cause de sa fièvre, elle était couchée. À cause de sa fièvre, elle ne pouvait pas aller plus loin. Les souffrances, parce qu'on entend des mauvaises paroles, les gens se moquent de nous, les gens nous persécutent, entre guillemets, de façon verbale, parce qu'on est chrétien ou au travail. Est-ce que c'est arrivé à personne, ça? Je crois que ça nous est tous arrivé, dès l'instant où on travaille dans ce monde. Mais on était prévenus. Je crois que le Seigneur Jésus fait bien les choses, parce que le premier message qu'il a donné en venant sur la terre, le message public, c'était les béatitudes. Qu'est-ce qu'il a fait? Heureux serez-vous quand on vous persécutera. C'est ça qu'il dit en premier. Il nous a prévenus dès le début. Et Et il nous fait cette promesse que toutes les fois où on est persécuté à cause de son nom, on sera béni. On sera le haut sujet d'une bénédiction. Le sujet d'une bénédiction parce que quand les personnes nous maudissent, lui, il transforme ça. Alors, il faut bien calculer que ce n'est pas parce qu'ils nous maudissent, parce qu'on fait le mal. Parce que là, il n'y a rien qui va se passer. Spirituellement, c'est... on va être mal. Mais si on fait le bien, et parce qu'on fait le bien, parce qu'on... Tout à l'heure, quelqu'un me disait, il y a une situation particulière, on lui a demandé de, entre guillemets, je précise pas, mais on lui a demandé de mentir dans une situation particulière pour arranger quelqu'un. Et cette personne, elle a dit, mais non, moi je peux pas. Je respecte Dieu, Dieu c'est un Dieu de vérité. Et les autres personnes sont des personnes, je ne précise pas non plus, mais d'une autre religion. Mais pour eux, il n'y a aucun problème de faire ça. Mais cette personne, parce qu'elle croit vraiment au Seigneur, parce qu'elle a vraiment un attachement pour Dieu, elle sait que Dieu, il ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas aux belles prières qu'on peut faire, Dieu regarde au cœur. Cette personne, elle a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Tout simplement. Et même si ça paraissait évident, elle avait besoin d'être rassurée à ce niveau. Je lui ai dit, mais tu as eu tout à fait raison, c'est ça qu'il faut faire. Dieu, c'est un Dieu de vérité. On a besoin, nous, de marcher dans la vérité. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et la plus grande chose qui peut nous paralyser, qui peut être cette fièvre à l'intérieur, elle est décrite dans le psaume 32, verset 3. Je le lis pour vous. « Tant que je me suis tu, c'est David qui parle, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. » Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et je crois que ça décrit bien la fièvre spirituelle. Nos os qui se consument, on gémit toute la journée, ça ressemble à quand on a la fièvre de manière physique. Mais là, on se rend compte que c'est quelque chose de spirituel. C'était dès le moment où David refusait de confesser son péché. Mais il dit par la suite que j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. J'ai dit ce qui n'allait pas dans mon cœur, ce qui était là. Et il y a des choses qui sont dans notre cœur. Le péché qui est là, qu'on maintient, le péché qu'on cajole, ça fait comme un feu qui dévore notre âme et qui nous consume et qui nous fait mal. Mais dès l'instant où on ouvre la bouche et on dit « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur », eh bien, le Seigneur est capable d'apaiser la fièvre, est capable de carrément la faire partir. Et il y a un danger quand on est couché. La fièvre, ça nous conduit à être couché, à ne plus pouvoir marcher. Mais il y a un véritable danger. Je rappelle cette histoire, je l'avais déjà prise une fois. Mais c'était un homme qui était très très malade justement, qui avait beaucoup de fièvre. Et à cause de cette fièvre, il était allongé sur son lit, incapable de faire le moindre mouvement. Et puis tout à coup, il a vu approcher du fond de la pièce un serpent, tout doucement. Un beau serpent bien venimeux, qui avait de bonnes intentions de le mordre, puisqu'il voyait une proie facile. Et cet homme, il était là, il était terrorisé, il avait tous les sentiments du monde que vous imaginez, quand vous voyez un serpent. Je ne sais pas si vous aimez les serpents, moi je ne les aime pas particulièrement. Mais là, c'était un serpent venimeux en plus. Et cet homme, quand il a vu ça, il a essayé de bouger, il a essayé de se tortiller comme il pouvait, mais il était tellement fatigué à cause de sa maladie qu'il a pu que voir le serpent s'approcher, jusqu'à ce qu'il vienne le mordre. Et il est mort de cette morsure, empoisonné. Et puis, il y a un homme qui est arrivé de la famille, qui lui était en forme, qui n'était pas malade. Quand il a vu le serpent, il a pris, je ne sais pas quoi, une pelle ou ce que vous voulez, et il a tué le serpent d'entrée. Il y a un danger d'être tenu couché par la fièvre. Il y a un danger de rester là et de ne pas bouger. Parce que le diable, il va venir comme un serpent. La Bible, elle le compare. Elle prend cette image, c'est pas pour rien. Parce que c'est le même danger spirituel. Et il y a un danger d'être tellement sans force qu'on ne peut pas résister à tout ce qu'il va nous proposer. Mais la Bible nous parle de Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour écraser la tête du serpent, pour nous apporter la victoire, pour nous permettre d'être délivrés de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples dans cette situation face à cette belle-mère? Ils ont vu que Jésus était présent et il est dit qu'ils ont parlé d'elle à Jésus. Quelque chose de très simple. Mais est-ce que des fois, et souvent même, et tout le temps, on n'a pas besoin de parler de nos problèmes, de ce qui ne va pas au Seigneur Jésus, de lui apporter? Et il n'est pas dit qu'ils ont fait de grandes prières, il n'est pas dit qu'ils ont employé des mots théologiques ou se sont appuyés sur telle ou telle doctrine. Ils ont juste vu qu'il y avait le Seigneur Jésus et lui ont juste parlé parce qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus. Même s'ils ne connaissaient pas encore bien, peut-être, parce que c'était les débuts, ils avaient compris que c'était quelqu'un plein de compassion. Pas quelqu'un qui allait juger, pas quelqu'un qui allait condamner. Jésus, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà pourquoi on peut venir ce soir, et tous les jours de notre vie, on peut venir dans la présence de Dieu, quel que soit notre péché. Le Seigneur Jésus ne va pas nous mettre dehors, mais il va au contraire nous accueillir pour pouvoir nous faire du bien. Nous devons parler au Seigneur Jésus de ce qui ne va pas dans nos vies, de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous empêche de dormir, de ce qui nous inquiète. Toutes ces choses, c'est normal que ça se passe dans notre cœur, mais ce n'est pas normal que ça reste. Il faut les apporter au pied du Seigneur Jésus. On connaît bien ce verset, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Et bien c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont, aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? S'étant approché, il a fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Quand Jésus s'approche de quelqu'un de manière spirituelle, il ne s'agit pas d'être touché physiquement, mais touché spirituellement. Et quand Jésus nous saisit, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et peut-être que on avait ce péché qui était là dans notre cœur, et quand Jésus s'approche et nous saisit, eh bien, à la place du péché, de la condamnation, de la colère de Dieu, c'est la paix, l'amour et la joie qui découlent dès l'instant où on accepte, nous, de saisir la main du Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord qu'elle, même malgré sa faiblesse, elle a quand même dû accepter déjà de recevoir la main de Jésus dans sa propre main. Elle a dû accepter d'être saisie par le Seigneur. Elle aurait pu dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien. Elle aurait pu partir dans toutes sortes de raisonnements. Mais non, elle n'avait rien d'autre à faire, on va dire. Mais est-ce que des fois on n'est pas dans ces moments où c'est la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'être saisi par le Seigneur? Ce soir, ça peut être le cas. La première fois, dans ce passage, on voit que la première fois où quelqu'un a été saisi par le Seigneur Jésus, il en est résulté la guérison. La fièvre, elle a quitté. Elle ne pouvait pas. Dans un autre passage, il est dit qu'il a menacé la fièvre. Mais là, c'est mis l'accent sur le fait que c'est Jésus qui l'a levé et la fièvre est partie. Il ne pouvait pas avoir les deux en même temps. C'est le contact du Seigneur Jésus et la maladie qui était là. Le Seigneur Jésus est capable de guérir. Et il y a des témoignages incroyables. Je me souviens de ce témoignage qui a marqué mon enfance. Pour moi, c'est tellement lointain que j'ai l'impression que c'était un rêve. Et puis, récemment, j'en parlais avec des personnes qui étaient à Colomiers à l'époque. J'étais à l'époque à Colomiers, j'avais 3 ans. Et je me souviens qu'une personne qui rentrait avec des béquilles dans la salle. Une salle comme ici. Hein. Et puis, moi, je n'ai pas bien capté la réunion, j'avais 3 ans. Donc, vous imaginez que ce n'était pas évident à tout comprendre. Mais j'ai quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu une personne rentrer avec des béquilles. Et j'ai vu pendant la réunion cette personne prendre ses béquilles comme ça et puis commencer à courir autour de la salle parce qu'elle venait d'être guérie après l'imposition des mains. Et là j'ai compris, malgré mon peu d'âge et avec le temps j'ai compris davantage, que le Seigneur Jésus était capable de guérir même les maladies, même ce qui était le plus difficile. Et récemment je parlais de ce que j'avais vécu avec ces personnes, et elles m'ont confirmé, ben oui, nous aussi on était là, mais ça fait 30 ans en arrière, et les cheveux, ils ont blanchi, les kilos, ils sont venus, etc. Pour moi, hein, pas pour les autres. Mais le Seigneur Jésus, lui, il ne change pas. Il est toujours capable de guérir, toujours capable de délivrer. Deuxième passage, Marc chapitre 5. C'est une autre histoire qu'on connaît bien. La première, c'est la main qui est puissante pour guérir. Celle-là, c'est la main de Jésus qui est puissante pour donner la vie. Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens !» Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Un autre moment où Jésus a saisi quelqu'un, et là c'était vraiment un moment en particulier parce que la personne était morte. Et dans cette histoire, on voit qu'il y a toutes sortes de voix qui résonnent aux oreilles de ce papa. C'est dans une autre histoire, c'est précisé qu'il s'appelle Jaïrus. Jaïrus avait sa fille qui était mourante. Elle n'était pas encore morte, mais elle était mourante. Mais lui, il était chef de la synagogue. Et il y a beaucoup de voix qui auraient pu résonner dans son esprit pour l'empêcher d'aller voir le Seigneur Jésus. Il y avait la voix de la religion. Pourquoi tu vas voir cet homme en particulier? Tu es chef de la synagogue après tout. Tu as une position devant Dieu. Est-ce que tu as besoin d'aller voir Jésus? Est-ce que tu ne peux pas t'adresser à lui directement? Est-ce que tu ne peux pas te servir de ta religion, de tes prières, de ta piété et accéder au Seigneur comme ça? Et il y a des hommes dans cette terre qui ont cette même état d'esprit. Et je pensais à quelqu'un qui est totalement indifférent, c'est quelqu'un qui est très fortuné, quelqu'un qui s'appuie sur ses richesses, c'est un témoignage. C'est un Américain, bon, c'est pas tous les Américains qui sont comme ça, là ça fait vraiment caricature, mais c'est un Américain fortuné qui allait en Europe voir un violoniste très très connu, très réputé, et puis il y a eu un problème sur le voyage, le vol, a eu du retard, etc. Il a loupé l'audition, et donc il est déçu parce qu'il n'a pas pu entendre tel violoniste hyper connu. Et alors, il joue de ses relations comme il est riche, influent, etc. Il s'arrange pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le violoniste et il lui dit, peu importe le prix que ça demandera, je veux que vous puissiez jouer pour moi. Donc le gars, il accepte une certaine somme, etc. Il s'arrange entre eux et le gars, il commence à jouer un morceau qu'il lui a dit. Et le gars, il joue magnifiquement bien, c'est un génie du violon, c'est tout l'inverse de moi, hein. Ne me mettez pas au violon. Comme Jérémy. Jérémy, il sait jouer du violon. Et le gars, il fait son morceau magnifique, incroyable. Les chaises se mettent à pleurer tellement c'est beau. Et l'Américain, il est là. Et lui, il bouge pas, impassible, totalement impassible. Puis le violoniste, il lui pose la question, mais est-ce que ça vous a plu au moins ce morceau que j'ai joué? Et le gars, il dit, ça, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir dire à tous mes amis que je vous ai entendu jouer tel morceau. C'est ça qui est intéressant. Le reste, après, la musique, c'est pas mon problème. Ce gars, il a fait tout ce remue-ménage, il a fait tous ses efforts simplement pour dire à tout le monde, moi, j'ai entendu tel violoniste qui a joué pour moi personnellement. Ce gars était tout simplement rempli d'orgueil. Et quand je réalise, quand je regarde cette histoire, je me rends compte que Jaïrus, malgré sa position de chef de la synagogue, cette autorité religieuse qu'il était, il n'a pas eu ce cœur plein d'orgueil devant Jésus. Au contraire, quand on regarde ce qu'il fait, il se jette à genoux et il fait une instante prière. Et ma question, elle est simple, c'est comment est notre cœur devant Dieu? Est-ce que notre cœur, il est comme cet Américain, plein d'autosatisfaction, de suffisance? Bon, ça va, je peux m'en sortir tout seul. J'ai pas besoin de Dieu. Si Dieu doit intervenir, il faut qu'il agisse comme je le veux, où je veux, quand je veux. Ou alors est-ce que je suis comme Jaïrus et je fais monter une instante prière? Seigneur, j'ai besoin de toi. Malgré tout ce que je peux avoir, malgré peut-être tous les diplômes que j'ai, peut-être toute la richesse que j'ai, Seigneur, toutes ces choses ne m'apporteront pas ce que toi tu peux m'apporter. J'ai besoin de ton aide. C'est ce que Jaïrus a choisi. Il n'a pas choisi d'écouter la voix de l'orgueil, il a choisi d'écouter la voix de la simplicité. Et il y a eu plein de voix qui se sont fait entendre. La voix du reproche, on se rend compte si on lit toute l'histoire, qu'il y avait une femme qui est intervenue pendant qu'ils étaient en train de se rendre chez Jaïrus et qui a fait perdre du temps au Seigneur. Bon, c'était une raison parce qu'elle était malade, elle avait besoin de toucher le Seigneur, par la foi elle a été guérie, mais il y a du temps qui est passé et juste à ce moment-là, une fois qu'elle a été guérie, on vient annoncer à Jaïrus, ta fille est morte. Et il y a cette voix dans le cœur de Jaïrus qui aurait pu sortir la voix du reproche. Ah, si elle n'était pas intervenue cette personne. Peut-être que ma fille sera encore vivante et que le Jésus aurait pu arriver à temps. Mais combien on doit refuser de s'appuyer sur ce que nos yeux voient, de s'appuyer sur nos raisonnements humains, combien on doit s'appuyer, refuser d'écouter les voix du reproche et plutôt faire confiance au Seigneur. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a prévu que ça se passe comme ça, il savait que ça allait se passer comme ça. Et quand on voit la fin de l'histoire, on se rend compte qu'il a bien fait de faire comme ça. Il voulait manifester sa vie. D'autres voient la voix du désespoir. Il y a des gens qui viennent avertir que la fille est morte, mais ils en rajoutent un peu plus. Ils mettent des éléments de leur propre fond, je vais dire. Vous savez, des gens qui viennent des fois nous encourager quand on est dans l'épreuve. Moi, je me souviens de certaines personnes. Je prends un exemple, je ne me rappelle plus les détails, mais c'était un peu ce style. Quelqu'un qui venait de se casser la jambe, et il y a quelqu'un qui vient l'encourager en lui disant « Ah, tu sais, moi, mon cousin, il s'est caché la jambe et on a dû lui amputer. » Vous voyez des personnes comme ça, qu'on est content de recevoir quand on a un problème. Et c'est un peu ce style de personne qui était venu consoler Jaïrus. Et Jésus, il a vu ça et il lui a dit quelque chose. « Ne crains pas, crois seulement. » Et on n'a pas justement, il ne faut pas qu'on s'arrête à écouter la voix du désespoir. Ta fille est morte, ça sert à quoi d'importuner le maître? Ta situation elle est bloquée, ça sert à quoi de prier? Ta situation elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire de plus? N'importune pas Jésus, c'est trop petit, c'est trop insignifiant cette situation que tu vis pour qu'il puisse intervenir. Eh bien moi je vous dis non, ne vous lassez pas d'importuner Jésus, d'ailleurs vous ne l'importunerez jamais. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il est tellement plein de compassion, plein de douceur, que jamais ça le dérange quand on prie de tout notre cœur. Ah, c'est sûr que si on fait des prières à rallonge et qu'on multiplie de vaines paroles, on ne va pas le déranger, mais il ne va pas nous écouter, tout simplement. Mais si on fait la prière du cœur, là, il va pouvoir nous écouter. Il y a plein de voix, la voix de la crainte, on l'a dit. Ne crains pas. Si on écoute toutes ces voix, le doute, la crainte, c'est des choses qui peuvent nous bloquer, nous tétaniser. C'est comme les lapins quand on roule la nuit et qui sont tétanisés par les phares de la voiture. Vous avez jamais vu ça? Et ils sont là, et on voudrait qu'ils bougent pour pas les écraser, mais ils sont là, ils sont terrorisés. Et des fois, la crainte, ça produit la même chose dans notre cœur. Quand on laisse les pensées de la crainte, c'est normal, encore une fois, que des fois on puisse avoir peur. Mais la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la peur. Et quand on comprend que Jésus nous aime véritablement, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, alors on peut être rassuré. On peut bannir toutes ces voix qui sont mauvaises. La voix de la moquerie. Certains se sont moqués de ce que Jésus a dit. Mais on ne veut pas écouter ces voix ce soir. On veut écouter plutôt la parole de Dieu. La voix de Jésus, celle qui résonne et qui veut résonner pour l'éternité dans notre cœur. La première, Jésus, quand il parle, il a des paroles particulières. La première chose qu'il dit, crois seulement. Ne crains pas, mais crois. Mets ta foi dans le Seigneur. Jésus, il a des paroles de foi. Jésus, il a des paroles de connaissance. Il connaît parfaitement la situation. Quand il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Elle ne fait que dormir. Jésus savait, parce qu'il connaissait l'avenir, il savait qu'elle allait être réveillée de son sommeil de mort. Elle était morte quand même. Mais il savait la situation. Combien c'est bon d'écouter le Seigneur Jésus nous dire ce qu'il connaît. Combien c'est bon d'être au courant de la volonté de Dieu pour notre vie. Comment être au courant de ce que Dieu veut, si ce n'est en lisant la parole de Dieu. Une autre parole du Seigneur, une parole de vie. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et alors qu'il a saisi par la main encore une fois, cette personne qui était morte, se met à se lever et se met même à marcher. Et Jésus est tellement plein de compassion, plein d'amour, qu'il ne se contente pas de la sortir du lit, entre guillemets. Il lui dit, il prend soin d'elle, donnez-lui aussi à manger, elle a besoin de nourriture cette jeune fille. Et Jésus, il fait la même chose avec nous. Si on est dans une situation où on est bloqué, où on ne peut plus avancer, où la situation semble morte, le Seigneur est capable de nous saisir, de nous lever, et non seulement il va nous lever, nous faire marcher, mais en plus, il va nous permettre d'être soigné. Il va prendre soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Il va nous donner notre nourriture, la nourriture de notre âme. Il va nous donner son Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il va nous donner tout cela. Alors, ce soir, simplement croyons que le Seigneur Jésus est puissant pour agir dans chacune de nos vies. Sa main est puissante. Et pourquoi ses mains sont puissantes? Pourquoi les mains du Seigneur Jésus sont puissantes? Bien plus qu'aucune autre main de ce monde. Parce que elles sont pures. Jésus n'a jamais fait le mal. Parce qu'elles ont toujours fait le bien. Ses mains sont pures. Parce qu'elles ont toujours manifesté la bénédiction de Dieu. Quand on regarde les évangiles, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu une action de Jésus de travers. Jésus, il a toujours fait le bien. Voilà déjà pourquoi ses mains sont puissantes. Et il a manifesté l'amour de Dieu aux hommes. Mais la plus belle chose qui nous montre que les mains de Jésus sont puissantes, c'est qu'elles sont percées. C'est que dans ses mains, on voit la marque des clous. Et encore aujourd'hui, je crois que quand on le verra face à face dans le ciel, on pourra lui demander, Seigneur, montre-moi tes mains. Et Jésus, comme un trophée, va nous montrer ses mains. Regardez. Hein, c'est pas un trophée qui montre des exploits sportifs incroyables, comme les médailles d'or en ce moment. Hein. Mais c'est un trophée qui nous montre une grâce de Dieu incroyable, une puissance de Dieu incroyable, une vie de Dieu incroyable qui veut manifester. Voilà pourquoi ses mains sont puissantes. De ces mains-là ont coulé le sang qui peut permettre d'effacer notre péché. Et ses mains, encore aujourd'hui, sont tendues vers chacun d'entre nous, alors que nous puissions simplement les saisir. Est-ce que j'ai besoin de guérison? Est-ce que j'ai besoin que de la vie du Seigneur Jésus? Est-ce que je suis bloqué? Il y a un péché qui est là, qui m'empêche d'avancer? Eh bien, saisis la main du Seigneur. Saisis la grâce de Dieu ce soir, et le Seigneur te bénira, parce qu'il est un Dieu d'amour. Amen. Merci Éternel. Merci parce que tes mains sont puissantes pour nous bénir, pour nous guérir. Ce soir, tu connais les cœurs, tu connais les vies. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu connais dans quel état sont les situations, même si pour nous, ça nous paraît mort, Seigneur. Toi, tu as un meilleur regard. Tu as le regard divin, Seigneur, et nous voulons te faire confiance. Tu vois toutes ces voix qui veulent résonner dans nos cœurs, Seigneur, certaines fois, les voix de ce monde, les voix de l'ennemi, les voix du péché qui sont là autour de nous, qui veulent résonner en nous, Seigneur. Mais nous ne voulons pas écouter ces voix. Ce soir, nous voulons écouter ta voix et nous voulons être saisis par ta main, Seigneur, être touchés par ta grâce. Merci parce que tu as prévu ces moments et tu avais prévu également qu'on puisse partager ces choses ensemble afin que nous puissions ne pas être bloqués, ne pas être paralysés par la fièvre, mais que nous puissions avancer, marcher en nouveauté de vie, comme ta parole nous y encourage. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons marcher main dans la main avec toi et être fortifiés par la force que tu vas nous donner, Seigneur. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu fais ce soir dans nos cœurs. Amen.